Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Gilles Gaillard. La gourmandise de ce matin est un extrait du discours de la méthode de Descartes qui définit gracieusement la notion d'échec. Le voici. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Et généralement, de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard de nous, absolument impossible. Romancière délicate, biographe de choc et élégante occupante du fauteuil 33 de l'Académie française, notre apothicaire de l'âme est aussi l'auteur d'un mémoire de maîtrise consacré aux fées et sorcières dans la littérature des 12e et 13e siècles. Après son agrégation de lettres modernes, elle collabore à des émissions sur France Culture et France Inter et devient journaliste et critique littéraire pour plusieurs journaux. C'est la contemplation des Pyrénées qui conduit cette native de Perpignan à l'écriture. « J'ai vu ces montagnes violettes, explique-t-elle, ce ciel bleu, et je me suis dit c'est tellement beau, il faut que j'arrive à raconter ce paysage. Son premier roman paraît en 1981 et sa plume ne cesse depuis de célébrer son amour du verbe et sa curiosité pour le destin des autres. Ses enquêtes sur les sœurs Heredia, Romain Gary, Berthe Morisot, Gala et Dali, Stéphane Zweig, Camille Claudel ou Colette nous font percevoir de pudiques fragments de sa personnalité. Voyons si l'on peut en faire surgir quelques autres dans l'heure. Bonjour Dominique Bonnat.
Bonjour.
Première question de cette émission inévitable, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Je dirais un rapport quotidien, parce que la mélancolie, c'est la tentation chaque jour, elle est là, elle vous surprend. Même dans les moments de bonheur, il peut arriver qu'elle surgisse quand on ne l'attend pas du tout. Donc je vis avec la mélancolie, mais une mélancolie plutôt souriante qui ne devient jamais trop obscure, c'est-à-dire c'est une mélancolie douce.
Une bonne compagne, alors, pas une
compagne.
Ennemie.
Ah non, pas une ennemie, non. Il faut apprivoiser la mélancolie, en fait. Je crois qu'elle est comme le ciel, elle est changeante. Bon, les jours de pluie, les jours de ciel gris, il faut quand même arriver à sourire un petit peu.
Oui, ça demande parfois quand même de grands efforts. Mais je sais, Dominique Bonnat, que vous avez repris la devise de votre première éditrice, Simone Gallimard, qui est une devise du langage des mousses à bord de la Marine Royale. C'est « hardi petit ».
Oui, je trouve que c'est une devise formidable. D'ailleurs, je l'ai transmise à ma fille. J'espère que mon fils aussi en fera bon usage. « Hardi petit », oui, parce que il faut du courage. Et on a beau être tout petit à l'échelle de la planète, modeste, là, dans nos vies quotidiennes, mais le courage, c'est nécessaire vraiment à chaque minute de chaque jour.
Dominique Bonnat, vous écrivez des romans, vous écrivez aussi des biographies, et vous dites dans une interview que la biographie protège du monde extérieur. On devient un peu schizophrène à force de vivre avec un autre personnage. Dans votre dernier ouvrage, Mes vies secrètes, paru chez Gallimard, vous dites que vous avez l'impression que ces personnages vous ont confié les clés de leur maison, et que vous n'avez jamais trouvé la vôtre. C'est une réflexion un peu mélancolique, cette réflexion, et puis cette protection du monde extérieur à travers la vie des autres. On pourrait se demander s'il n'y a pas un spleen un peu plus profond que le doux spleen que vous décrivez.
Je ne crois pas que ce soit tellement finalement une tristesse ou oui un sentiment presque négatif qui me conduise vers les autres. Au contraire, c'est plutôt un désir. Donc le désir, c'est quand même très beau. C'est une appétence, c'est un appétit vers d'autres vies, peut-être plus vastes, plus généreuses, plus romanesques que la mienne, qui m'ont toujours attirée vers d'autres personnages. Mais enfant, j'étais une petite fille qui s'évadait beaucoup, qui s'évadait dans la lecture. J'adorais lire parce que finalement, dans la lecture, j'apprivoisais la vie. C'était plus facile pour moi de vivre dans les livres que dans la vie. Et j'ai découvert très tôt cette espèce de dimension de liberté que donne la lecture.
quand on lit ce que vous dites au sujet de vos rapports avec ces gens sur lesquels vous avez enquêté, Dominique Bonnat, on voit que tous sont déteints sur vous, que Gala, la gourmande et sensuelle, vous a communiqué son énergie vitale, que Gary a changé votre vie. Et Sveg, j'aimerais vous poser cette question parce que je trouve ça un peu ambigu. Vous dites, toujours dans Mes vies secrètes, tout ce que ce grand neurasthénique écrit a une puissante force de consolation, on se sent immédiatement compris, aimé, absous grâce à lui. Et un peu plus loin, Sveg m'a entraîné dans sa descente vers l'abîme et conduite aux portes de la dépression qu'il a finalement emportée.
Oui, il y a un mystère, en fait, Stefan Zweig. Le mystère de Stefan Zweig, c'est que cet homme, qui était quand même un écrivain des années 30, est quand même une extraordinaire longévité, parce que c'est un écrivain qu'on lit beaucoup aujourd'hui, qui est un best-seller à chaque fois qu'il y a un inédit qui paraît en librairie, et qui a en plus des lecteurs qui sont de plus en plus jeunes. Il y a beaucoup d'adolescents de 15 ans qui le lisent. Donc déjà ça, c'est un facteur d'optimisme. On se dit, bon, après tout, les écrivains, peut-être une vie très longue devant eux. Mais l'autre mystère, c'est vraiment celui de son œuvre. C'est-à-dire que c'est un homme qui a toujours décrit des tragédies, des histoires vraiment plus que tristes. Non seulement cela, mais ce sont des histoires qui se déroulent en général à la tombée du jour, au crépuscule, et même le plus souvent dans la nuit complète. Il y a par exemple cette nouvelle de Amok, qu'aiment beaucoup les lecteurs de Stefan Zweig, et qui se déroule dans une nuit noire, c'est-à-dire que les deux personnages qui se parlent ne se voient pas, ne peuvent même pas voir leur visage. Donc cette nuit, elle est envahissante dans l'œuvre. On se dit comment est-ce qu'un homme a pu consacrer finalement toute son œuvre à ce décor si obscur. En même temps, cet homme, il est généreux, il est très humain, il est très tolérant, il comprend tout. Il comprend non seulement les actes nobles de l'humanité, mais il comprend les trahisons, les péchés, les adultères, il comprend tout ce qui est un petit peu difficile dans la vie et si souvent mal jugé par l'ensemble des gens. Au fond, lui, c'est pas un juge, c'est un homme de bonté, ouvert à toutes les faiblesses humaines. Et cet homme-là, il donne une dimension exceptionnelle à cette œuvre, de sorte que dans cette nuit obscure, il y a des ondes chaleureuses, il y a une chaleur extraordinaire qui circule. Et c'est ça que j'ai aimé chez Zweig, que j'ai voulu comprendre dans sa vie, parce qu'en effet, cet homme qui était un homme d'amitié a une mort tragique, en effet, puisqu'il va mourir au Brésil, en plein carnaval de Rio, il se donne la mort.
Avec sa épouse.
Et pourquoi ? C'est quand même un long chemin, une longue descente aux enfers. Donc, évidemment, le biographe n'a pas toujours à décrire des situations joyeuses. Il y a aussi la profonde, très profonde mélancolie ou tristesse des personnages qu'il doit pouvoir partager.
On va s'approcher de vous, Dominique Bonnat, par d'autres. J'annonce le sommaire aux auditeurs. Vous allez convoquer dans quelques instants Paul Valéry, Chimène Badi, Bob Dylan, Colette, Visconti, Berthe Morisot, vos prières d'enfants et de la marche juste après l'étincelle d'Étienne Dao.
Le soir, déplie ses voiles sombres. Enveloppe l'étoile, les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, les perdre silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le cas orageux, cet éclair dangereux des héros silencieux. Vois
l'heure du soir qui plonge, nos ombres se rallongent, les anges se morfondent, nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre. Sur le pavé, les cœurs givrés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux. Perdre silencieux, au fond de nous, l'étincelle dans le calme orageux, cet éclair dangereux et au silencieux. L'étincelle
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Dominique Bonnat.
Aujourd'hui, je vais demander à Don Calogero la main de sa fille pour mon neveu Tancrède. Vous êtes le premier à connaître la nouvelle. Et pour ce privilège, vous devrez payer. Quand nous rentrerons au palais, je vous enfermerai dans l'armurerie avec les chiens. Et ne vous libérerai qu'après la visite de Don Calogero. Je veux que rien ne transpire auparavant. Allons.
Excellence, c'est une saloperie. Un neveu à vous ne doit pas épouser la fille de ceux qui sont vos ennemis, qui vous ont toujours tiré dans le dos. Essayer de la séduire comme je le croyais, c'était un acte de conquérant. Mais comme ça, c'est une capitulation. C'est la fin des falconneries. Et la fin des Salinas.
1963, l'adaptation cinématographique du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le Guépard, de Luchino Visconti, un film mélancolique et crépusculaire sur la fin de la grande aristocratie et l'effondrement de l'homme qui l'aperçoit le mieux, le prince désargenté Salina, incarné par le magistral Burt Lancaster. Pourquoi avoir choisi ce film comme remède, Dominique Bonnat?
C'est parce que, tout simplement, c'est un film que je repasse très très souvent. Quand j'ai un moment de blues, le soir, j'aime bien regarder Le Guépard de Visconti. Je crois que c'est d'abord à cause du climat, le fait que ce soit en Sicile, il fait très chaud, c'est un été, j'adore le début du film, quand ils sont dans ce palais, ce vieux palais de Palerme, et il y a un vent léger qui souffle et qui soulève les voilages, il y a toute cette famille réunie, un climat un peu étouffant à tous les points de vue, mais on sent qu'il va y avoir des histoires d'amour, on sent que tout est possible encore pour cette petite société de Palerme. Et je ne sais pas, il y a une sorte de bienfaisance dans ces images qui sont parfaitement harmonieuses, parce que Visconti, c'est le roi de l'harmonie.
C'est sublime, chaque cadre est un tableau.
C'est d'une beauté totale et ça fait un bien fou à l'âme de voir la beauté, la lumière aussi de cette Sicile si chaude. Enfin, oui. Je regarde très très souvent, et en particulier le début. J'aime moins la fin, parce qu'évidemment la fin vous serre le cœur violemment, mais le début non. Et les personnages sont amusants, Delon est extraordinaire, tout dans sa jeunesse, tout sautillant. Enfin, c'est un très
joli film. Trouve d'ailleurs moins séduisant que Burt Lancaster dans ce film.
Burt Lancaster est tout simplement irrésistible.
Irrésistible.
C'est peut-être au fond pour ça que je regarde Le Guépard.
Puis il y a Claudia Cardinale qui se mord les lèvres sulfureusement pendant tout le film. Et tout est sublimé. Il faut dire que même lorsqu'on voit un rare cadavre, il est entre des roses, dans un jardin mis en scène dans une posture langoureuse. Mais c'est malgré tout, j'insiste, Dominique Bonnat, la fin d'un monde. C'est-à-dire que on va marier ce neveu à la fille d'un homme très vulgaire, d'un maire qui ne parle que d'argent, et donc c'est la fin d'une société, la fin.
Oui, mais alors, pour soigner la mélancolie, je pense qu'il ne faut pas faire appel à des films ou une littérature trop comique, parce que ça a l'effet inverse. Moi, je soigne ma mélancolie par de la mélancolie. Et en général, quand je me trouve au diapason d'un autre homme ou d'une autre femme mélancolique, tout va beaucoup mieux, je me sens moins seule dans ma mélancolie. Sinon, si on s'affronte à quelqu'un qui, alors qu'on est un peu triste, à quelqu'un qui est en train de rire aux éclats ou qui fait des grosses blagues, eh bien au contraire, on se renferme sur son petit monde intérieur, au lieu justement d'ouvrir vers d'autres mélancolies fraternelles.
C'est ça, la grande fraternité des mélancoliques.
Poésie, par la surprise saisie, une bouche qui buvait au sein de la poésie en sépare son duvet. Ô ma mère intelligente, de qui la douceur coulait, quelle est cette négligence qui laisse tarir son lait? À peine sur ta poitrine, accablée de blancs liens, me berçait l'onde marine ton cœur chargé de biens. À peine dans ton ciel sombre, abattu sur ta beauté, je sentais à boire l'ombre m'envahir une clarté.
Le poème « Poésie » dit par Paul Valéry, dont vous avez raconté une histoire d'amour, dont je suis fou de toi, Dominique Bonnat, qui est aussi l'auteur de votre citation « Béquille ». Mon père, le soleil, et ma mère, la mer, m'ont fait l'un très obscur et l'autre non amer. Est-ce que vous, Dominique Bonnat, vous vous sentez obscur mais non amer ?
Oui. Oui, je me sens obscure assez souvent parce que je n'ai pas la réponse aux questions que je me pose, parce qu'il y a des angoisses, des inquiétudes, tout ce qu'on veut, comme tout le monde. Mais je ne me sens pas amère. Et je me méfie de l'amertume que peut donner la mélancolie. Je n'aimerais pas être amère, avoir un goût de citron ou de peau d'orange, je ne sais pas. Non, j'aime la douceur, j'aime les parfums, les saveurs fortes, violentes, qui ont le goût de la vie. Et l'amertume, ça n'a pas le goût de la vie.
C'est étrange puisque en préparant cette émission, j'ai cherché d'où venait cette citation de Paul Valéry et je ne l'ai trouvée citée qu'une seule fois par quelqu'un d'autre, par Jean-Marie Rouard, Dominique Bonnat. Je crois que vous connaissez.
Oui, bien sûr, je connais bien Jean-Marie Rouard et il aime beaucoup aussi Paul Valéry. Et puis Paul Valéry est apparenté à Jean-Marie Rouard, puisque c'est la grande famille Manet, Morisot, Rouard, Valéry.
Vous avez écrit
une sorte
sur
de constellation artistique qui forme et qui est, oui, c'est une phrase que citait aussi sa fille, la fille de Paul Valéry, Agathe Valéry. Et c'est très beau parce que, et alors il y a toujours ce jeu chez Paul Valéry, tout à l'heure dans cette phrase qu'il disait lui-même de cette voix d'une autre époque, mais qui donne quand même le frisson parce qu'entendre la voix de Paul Valéry, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il y avait l'opposition entre l'ombre et la clarté. C'est un homme qui a toujours beaucoup opposé poétiquement la lumière et la nuit. Et on sent bien qu'il aspire à la lumière et que lui-même, c'est un grand mélange. Paul Valéry, il est souvent dans la nuit, mais au fond, toute sa vie, c'est un chemin vers la lumière. Et cette belle phrase, mon père le soleil et ma mère la mer, même si on ne retient que le début, c'est superbe de se sentir enfant du soleil et de la mer.
Et vous, Dominique Bonnat, je crois que vous êtes plutôt une enfant du soleil, puisque il paraît que votre bureau est entièrement tendu de jaune. Cela vous permet de travailler au soleil toute l'année, dites-vous. D'ailleurs, tous mes romans se passent au soleil, on me l'a fait remarquer.
Oui, mais je suis une fille du Sud. Je suis née au bord de la Méditerranée, à Perpignan. Et c'est vrai que le soleil est très important. Et comme à Paris, je me sens un petit peu en exil. Et le ciel est si souvent gris en Île-de-France. Donc, j'ai peint mon bureau en jaune, comme le soleil.
Alors l'idée, c'est une idée géographique qu'on retrouve un peu dans votre premier antidote musical, Dominique Bonnat.
J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois, qu'une très vieille femme en noir illuminait pour moi, une maison toute en pierre que la mer a rongée. cimetière où les croix sont penchées. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie.
Je viens du Sud, morceau composé en 81 par Jacques Revaux pour Michel Sardou. On entend la reprise de 2005 de Chimène Badi. Pourquoi ce choix, Dominique Bonin ?
J'aime bien la voix de Chimène Badi. C'est une voix chaleureuse, c'est une voix forte, c'est une voix entraînante. On a envie de la suivre. Quand elle chante « Je viens du Sud », elle invite au voyage. On quitte l'immédiat, on quitte le quotidien, on s'en va avec elle dans ces paysages qu'elle décrit dans la chanson, mais qu'elle chante aussi, c'est-à-dire cette espèce de vigueur de Chimène Badi, c'est ça qui est bon pour lutter contre la mélancolie. Il faut des tempéraments énergiques autour de soi, et l'énergie, c'est une qualité humaine qui n'est pas si fréquente en fait.
Pensez-vous qu'on puisse la cultiver ?
Oui, on peut s'appliquer quand même à être un peu plus positif. Bon, je sais bien que l'énergie, c'est aussi la vitalité, il faut prendre des vitamines, etc., prendre l'air, respirer. Mais je crois que c'est aussi une attitude mentale, c'est-à-dire de chercher plutôt les bonnes choses, voir la vie du bon côté, du meilleur côté que l'on puisse l'avoir, bien sûr.
Oui. Alors votre second baume musical, on va l'écouter dans un instant, Dominique Bonnat, il s'agit du titre Blowing in the Wind, chanté en 1963 par Bob Dylan. Dylan dit qu'il a écrit cette chanson en 10 minutes, ce qui est très agaçant. Qu'est-ce que ça vous évoque cette chanson ?
Dylan m'évoque bien sûr mes 20 ans, alors déjà c'est une première cure de jeunesse, c'est parfait, mais surtout j'aime sa voix de cow-boy. On l'imagine tout de suite à cheval, dans la grande steppe américaine, avec ses Santiago, le côté nonchalant de Bob Dylan. On se sent détendu avec lui. En même temps, on sait que tout est permis avec lui. C'est-à-dire, il incarne une forme de liberté. Voilà, une forme de liberté. La liberté du cow-boy dans la steppe.
Comme beaucoup des personnages auxquels vous vous êtes intéressé dans vos livres, Dominique Bonin. La liberté, ça revient
important quand même. Oui, la liberté, c'est important. Je crois que je n'avais pas conscience de choisir des personnages en fonction de cette liberté. Je les ai choisis souvent pour de toute autre raison. Mais c'est ce qu'ils ont en commun. Et c'est sans doute ce que j'ai préféré, finalement, chez eux, quand j'y réfléchis un petit peu. C'est qu'en effet, ils ont lutté pour être libres dans le domaine qu'ils avaient choisi, que ce soit écrire, ou que ce soit peindre, ou que ce soit vivre.
Célébrons cela en écoutant Blowing in the Wind, Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Dominique Bonnat et d'une symphoniste de l'écriture.
Pour vous, Madame Colette, la vie a-t-elle un sens?
Et même un sens unique, je pense. Elle ne va que dans un sens, qui est de quitter la vie. Qu'appelez-vous un sens?
Je pensais que vous alliez peut-être me répondre que pour vous, le sens de la vie, c'était de jouir de tous ses sens.
Oh non, je ne pourrais pas me borner à cela. Je ne suis pas d'une nature assez joviale.
Colette, au micro d'André Parino sur la RTF en 1950, votre sérum littéraire, Dominique Bonnat, c'est le récit de Colette paru en 1928 d'abord dans la Revue de Paris, La naissance du jour, un texte rédigé par l'auteur pendant l'été 1927 en relisant la correspondance de sa mère. Vous lui avez consacré le livre Colette et les siennes. Elle a 54 ans quand elle rédige ce livre et dedans elle se dépeint comme une très vieille femme. C'est comme un bilan, un renoncement. Mais malgré tout, non, c'est impossible pour Colette de renoncer tout à fait.
Ah oui, elle se décrit peut-être comme une vieille femme, parce que 50 ans d'abord, on a une longue vie derrière soi déjà, c'est vrai. Et puis parce que dans ce livre, elle se retourne vers son passé, elle a un regard sur la vie qui s'est écoulée derrière elle. Mais c'est tout de même une femme qui est restée extraordinairement vivante jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte à 80 ans, plus de 80 ans, et elle a aimé la vie sous toutes ses facettes. Alors là, je me demande si c'est pas par coquetterie qu'elle répond: je ne suis pas assez joviale pour vivre la vie selon mes cinq sens. C'était quand même une femme très sensuelle. En tout cas, c'est un écrivain sensuel ou une écrivaine sensuelle, parce que elle donne beaucoup de place aux cinq sens dans tout ce qu'elle raconte. Et ce que sa façon d'aborder la vie et de la décrire, c'est toujours soit par la vue, le toucher, le parfum. Il y a vraiment, les cinq sens sont à l'œuvre chez Colette.
Il y a des phrases qui éclatent, qui arrachent des lambeaux de cœur dans ce livre qui est absolument magnifique. Par exemple, une des grandes banalités de l'existence, l'amour se retire de la mienne. C'est un livre qui est aussi, il y a une cruauté dans ce livre, dans le jugement des gens qui l'entourent. Elle a une lucidité implacable. Elle voit les défauts des gens, elle voit la laideur. Je pense à ce jeune voisin, Vial. Elle supporte de moins en moins la compagnie humaine.
Peut-être parce que justement elle est rattrapée par l'âge. Mais ce que j'aime chez Colette, c'est que elle ne fait pas semblant d'être toujours jeune, comme on voudrait souvent qu'on soit aujourd'hui. Elle accepte sa vieillesse. Elle se dit je suis vieille, mais elle voit aussi les atouts de la vieillesse, le regard qui peut être le sien, beaucoup plus serein, beaucoup plus à distance qu'il ne l'était quand elle avait 20 ans ou 25 ans et qu'elle était entièrement dans l'action, dans la vie. Et finalement, cette femme qui accepte la définition de la vieillesse, qui accepte la déformation physique, mais qui la dépasse aussi, parce qu'elle garde un cœur vivant, et elle garde surtout, encore plus extraordinaire, un sourire. Cette vieille femme, elle garde un sourire de jeune fille, parce que ce qu'elle aime, Colette, c'est le matin, de tirer les rideaux et de les ouvrir sur la lumière du jour. Et ça, cette manière de regarder le monde à travers sa fenêtre, en écartant les rideaux et en souriant au jour qui se lève, je trouve que c'est l'attitude la plus belle pour répondre à un climat de mélancolie.
Et il est vrai, Dominique Bonnat, que la nature est une source de réjouissance constante pour Colette, dans beaucoup de ses livres, mais dans ce livre aussi. Alors, j'insiste malgré tout, parce que vous dites, elle parle de la vieillesse et tout ça, mais elle a 53 ans, c'est jeune 53 ans.
C'est pas si jeune que ça, écoutez, il faut pas exagérer. Bon, c'est jeune, parce que les femmes de 50 ans aujourd'hui gardent un tonus formidable, lissent leur peau, enfin, ont une attitude, une façon de s'habiller aussi, qui les garde jeunes. Et il est certain que Colette, qui était née dans l'autre siècle, quand même, enfin, au 19e siècle, donc c'est une autre génération. Mais je crois que au fond, elle a aimé tous les âges de sa vie, vous voyez. Et ça me paraît toujours une banalité d'entendre les gens dire « Oh là là, comme je regrette mes 20 ans, etc. » Il me semble qu'il y a des âges, y compris 50 ans, 60 ans, 70 ans, où on peut savourer aussi la vie. Je me souviens très très bien d'une des premières phrases que m'a dite mon premier éditeur quand j'ai publié mon tout premier roman. J'étais, moi, une très jeune fille, 25 ou 26 ans, et mon éditeur était une dame que je croyais très vieille et qui doit avoir mon âge aujourd'hui. Eh bien, elle m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Ma petite fille, parce qu'elle m'appelait comme ça, ma petite fille, la vie commence à 60 ans. C'était Simone Gallimard, elle m'avait dit cette phrase parce qu'elle était tombée amoureuse peu de temps avant ses 60 ans, et elle pensait réellement que la vie peut commencer à 60 ans aussi.
Mais c'est réjouissant.
Oui, c'est réjouissant.
Oui, c'est réjouissant. Avant qu'on vous écoute lire un petit extrait de ce texte de Colette, Dominique Bonnat, vous dites dans votre dernier livre qu'elle est une libératrice et qu'elle vous a aidé à prendre conscience que le bonheur, qu'on croit être un don rare et précieux, est au contraire facile à la portée de chacun.
Oui, parce que elle a une manière très très simple d'aborder le bonheur. Le bonheur, c'est pas un état exceptionnel. Non, le bonheur, c'est des tout petits instants qu'il faut pas laisser échapper. Quand on est bien avec quelqu'un, quand on passe un bon moment, etc. Il faut bien le savourer, parce que le bonheur, malheureusement, chacun le sait, est fugitif. Il ne dure pas très très longtemps, mais il se reproduit à plusieurs reprises dans la vie. Et ça, Colette, elle excelle à le raconter.
Saisir les moments de grâce. En parlant de moments de grâce, on va vous écouter nous lire un extrait, si vous le voulez bien, Dominique Bonnat.
Alors, je vais lire l'extrait de La naissance du jour. Est-ce ma dernière maison ? Je la mesure, je l'écoute, pendant que s'écoule la brève nuit intérieure qui succède immédiatement ici à l'heure de midi. Les cigales et le clayonnage neuf qui abrite la terrasse crépitent. Je ne sais quel insecte écrase de petites braises entre ses élytres. L'oiseau rougeâtre dans le pin crie toutes les 10 secondes. Et le vent de ponant qui cerne attentif mes murs laisse en repos la mer plate, dense, dure, d'un bleu rigide qui s'attendrira vers la chute du jour. Est-ce ma dernière maison ? Celle qui me verra fidèle, celle que je n'abandonnerai plus.
C'est magnifique et mélancolique.
Oui, c'est un passage que j'aime parce qu'il raconte l'amour d'une femme pour cette maison, son attachement à la maison. C'est le rêve d'un décor tranquille où les oiseaux chantent, où les fleurs fleurissent. Et ça me donne une mélancolie incroyable parce qu'au fond, je rêve moi aussi de cette maison. Une maison que je n'ai pas ou peut-être que je n'ai plus, parce qu'elle me fait penser à la maison de mon enfance qui était un mas au milieu des vignes où vivaient mes grands-parents. Et pour moi, cette description de Colette, c'est vraiment l'image d'un bonheur. C'est peut-être aussi l'image d'un paradis perdu, donc d'où la mélancolie. Mais oui, au fond, je me dis que au moins j'ai cette image en moi, une jolie image.
On parle de l'enfance et ça tombe parfaitement puisque, Dominique Bonnat, votre philosophie consolatoire vient de l'âge tendre. Il s'agit de vos prières d'enfant. Alors, qu'entendez-vous par prières d'enfant ? Était-ce des souhaits ou de réelles prières ?
Oui, ce sont les prières qu'on apprend quand on est tout petit. Dans ma famille, c'était des prières catholiques que ma grand-mère m'avait apprises toute petite et qu'elle récitait avec moi le soir. Traditionnellement, elle s'asseyait sur le bord du lit et au lieu de chanter une chanson, elle récitait la prière et nos voix récitaient ensemble. Et cette espèce de rite m'aidait finalement, m'apaisait, me tranquillisait. Donc j'ai gardé cette tradition, bien que je sois pas vraiment croyant, je suis plutôt laïque, mais tout de même les prières me sont restées un peu incantatoires et donc je les ai récitées non seulement à mes enfants, mais avec mes enfants, et maintenant avec mes petits-enfants. Et je remarque que les petits, auxquels j'ai appris ces mots, des prières, les récitent, vous voyez, c'est comme une poésie, mais surtout ce qui est important, c'est de dire à deux voix, parce que cette union des voix, c'est assez rare, dans la paix du soir, de se retrouver. Au fond, j'ai pas tellement de philosophie à recommander aux auditeurs de France Inter, j'aime pas beaucoup les systèmes abstraits, en fait, je me perds dans les concepts, moi il me faut toujours des situations concrètes, des belles images, des musiques, des parfums, des couleurs, pour que je comprenne un petit peu le sens de la planète ou le sens de la vie, comme disait Colette tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'évoquent ces prières ? Est-ce que le contenu est important ou est-ce que finalement seule la musique, le rythme de l'incantation à deux vous suffit, Dominique Bonnat ?
Mais écoutez, le texte même c'est important parce que dans ces prières toutes simples comme le je vous salue ou notre Père, ce sont des mots d'amour qui reviennent. Donc mais ce qui est important. Oui, c'est en même temps la musique, l'unité de la musique, le fait que les voix convergent, s'allient, vont dans le, voilà, chantent en même temps finalement, parce que c'est psalmodié quand même ces petites prières. Il faut les dire tout doucement comme ça, et c'est comme à la fois une berceuse, mais une berceuse un peu magique, voilà, qui se répète et qui est toujours la même tous les soirs.
Je me permets, puisqu'on parle de quelque chose qui vous vient de l'enfance, Dominique Bonnat, de rester un peu dans cette enfance et un peu du côté de la nostalgie. Je crois que vous regrettez de n'être pas devenu archéologue. Vous avez eu une révélation à 13 ans lors d'un séjour en Italie avec votre grand-mère.
Oui, j'étais fascinée par les ruines. Les ruines de Pompéi.
Qui est hautement mélancolique.
Évidemment. Oui, en même temps, c'est le côté policier, le côté enquête, retrouver des civilisations perdues. Tous les enfants ont toujours adoré ça, c'est-à-dire trouver des ruines, imaginer qui avait vécu là, de quelle façon, est-ce qu'il n'y a pas des trésors cachés, etc. Donc ça, c'est venu comme ça. Mais oui, l'enfance, c'est quand même très important pour moi. En fait, je me rends compte que très souvent, ce sont des souvenirs d'enfance qui me donnent des forces que je ne soupçonnais pas. C'est souvent vers l'enfance que je reviens pour trouver une consolation ou un réconfort. C'est curieux. Et puis j'aime l'enfance de toute façon. J'aime être entourée d'enfants. Mes petits-enfants comptent beaucoup. Oui.
Alors un très bon usage de la nostalgie enfantine.
Il y a une joie dans l'enfance. Je crois qu'il y a une joie native, une joie naïve.
Que vous réactivez.
Et voilà, il faut réactiver l'enfance et tout va beaucoup mieux après.
Alors dans un instant, nous parlerons d'une peintre sur laquelle vous vous êtes également penchée. Le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter, Polly Blue de Jessica Pratt.
Some fools flirt like this before. Illusions that they try to understand the questions of the man I'd hope could find. What is this answer? Lonely days go by. For most of these dangers lie across a lover's hand. Please understand the changes that a boy has had to climb.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Dominique Bonnat. Dans votre panthéon antisplinétique figure le tableau Le Berceau, peint par Berthe Morisot en 1872 et qu'on peut voir au musée d'Orsay. Berthe Morisot apparaît évidemment dans l'un de vos ouvrages et dans Mes vies secrètes. Vous dites, Dominique Bonnat, qu'elle ne peint que le bonheur, un bonheur sans excès ni fièvre, sans gaieté appuyée ou vulgaire, un bonheur harmonieux mais fragile. Et vous dites aussi, écrire une biographie de Berthe, c'est se pencher sur le destin de toutes les jeunes filles rêveuses que la vie finit par rattraper avec son lot de calamités prosaïques et sa radicale absence de poésie. C'est un sombre constat.
Oui, mais pas si on regarde la peinture de Berthe. Parce qu'en fait, Berthe Morisot, qui est donc la peintre de l'impressionnisme, et d'ailleurs à laquelle le musée d'Orsay va consacrer une exposition, une rétrospective à partir du mois de juin, je suis très heureuse de ce projet, Berthe Morisot laisse une œuvre qui est une œuvre de la lumière. C'est l'artiste par excellence de la lumière. Elle peint dans des blancs, des roses pâles, des verts pâles. Et elle ne peint que l'univers de la jeunesse, de l'adolescence et de la première jeunesse. C'est volontaire, bien sûr. C'est son climat, c'est son monde. Donc, elle laisse une sorte de testament de lumière extrêmement doux. Mais c'est vibrant en même temps, vibrant, parce que comme c'est une peinture impressionniste, un peu inachevée, on a l'impression que les personnages sont encore en train de bouger, vous voyez, sur la peinture, ils ont quelque chose de très très vivant encore aujourd'hui. Et quand on est dans son monde à elle, on est entraîné à l'harmonie, à la paix intérieure, mais on ne perd pas pour autant le sens des réalités, parce qu'on sait que ces moments-là, ils sont arrachés au quotidien, arrachés à l'obscurantisme. Et voilà, et elle est merveilleuse, Berthe Morisot.
Alors le tableau Le Berceau représente l'une de ses sœurs, Edma, veillant sur le sommeil de sa fille Blanche. Elle a la tête appuyée dans la main, Edma, elle est songeuse, elle regarde l'enfant dans le berceau. Et alors, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'elle tire le voilage du berceau entre le spectateur du tableau et le bébé.
Oui, on voit le bébé à travers un rideau de mousseline presque transparent, comme il y avait autrefois sur les berceaux. Ce tableau, pour moi, c'est une image de paix, voilà. Quand je le regarde, je m'apaise, la vie ralentit, on arrête de s'agiter dans tous les sens, de courir, on s'arrête. Comme une mère au chevet de son enfant, qui est suspendue à la respiration de son enfant. D'ailleurs, sur ce tableau, on entend presque l'enfant respirer et la mère respirer avec lui.
Beaucoup de gens ne savent plus marcher parce que l'utilisation de transports roulants leur a fait oublier ou négliger la locomotion naturelle. La marche est une fonction comme la respiration. Il faudrait même qu'elles fussent toutes les deux synchronisées. En tout cas, je puis déjà vous dire qu'un bon marcheur ne souffre jamais de corps aux pieds.
Nous ne savons pas marcher. Une archive de 1950 pour illustrer l'activité qui vous grise, Dominique Bonnat. C'est la marche. Il nous reste 1 minute 30 pour l'évoquer. Est-ce que vous y adonnez souvent? Et êtes-vous d'accord avec cette citation de Nietzsche? Être cul de plomb, voilà par excellence le péché contre l'esprit. Seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose.
Oui, alors pour un écrivain, évidemment, c'est un peu embêtant parce que l'écrivain passe sa vie assis devant son cahier ou son ordinateur. Mais c'est vrai que la marche a un pouvoir incroyable de vous remettre les idées en place, de vous dynamiser. En tout cas, moi, j'adore marcher. Je marche tous les jours beaucoup. J'écris même en marchant.
Comment,
parce que les idées viennent. Dès que vous vous mettez à marcher, votre cerveau est oxygéné. Les idées vous viennent, vous êtes très créatif.
Vous les notez ?
Non, je note dans ma tête, je me souviens. Alors quand je reviens, je suis à nouveau dynamisée et je crois sincèrement que je pourrais marcher parfois jusqu'au bout du monde.
Ah oui ? Bah alors, il faut qu'on termine sur ces mots, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de vous dire, Dominique Bonnat, que vous me faites penser à Rousseau, qui écrivait aussi tout dans sa tête en marchant.
Oui, alors là, je rougis de la comparaison, bien évidemment, mais je pense qu'un bon nombre de gens, écrivains ou pas écrivains, trouvent leurs idées en marchant, et quand on est dans une situation qui paraît fermée, à ce moment-là, on sort, on marche, ou que ce soit en ville, à la campagne, et tout va beaucoup mieux.
Puisque physiologiquement, tout ça agit sur l'humeur. Merci beaucoup, Dominique Bonnat, d'être venu dans cette émission.
Merci.
Je rappelle le titre de votre dernier livre, Mes vies secrètes, paru chez Gallimard en janvier dernier. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission comme toujours. J'espère que votre âme est aussi paisible que celle d'une plume cartomancienne. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.